Jules Verne, autour de la Lune. Chapitre 6. Demande et réponse. Le 4 décembre, les chronomètres marquaient 5 heures du matin terrestre quand les voyageurs se réveillèrent après 54 heures de voyage. Comme temps, ils n'avaient dépassé que de 5h40, la moitié de la durée assignée à leur séjour dans le projectile. Mais comme trajet, ils avaient déjà accompli près de 7/10 de la traversée. Cette particularité était due à la décroissance régulière de leur vitesse. Lorsqu'ils observèrent la Terre par la vitre inférieure, elle ne leur apparut plus que comme une tache sombre, noyée dans les rayons solaires. Plus de croissant, plus de lumière cendrée. Le lendemain, à minuit, la Terre devait être nouvelle, au moment précis où la Lune serait pleine. Au-dessus, l'astre des nuits se rapprochait de plus en plus de la ligne suivie par le projectile, de manière à se rencontrer avec lui à l'heure indiquée. Tout autour, la voûte noire était constellée de points brillants qui semblaient se déplacer avec lenteur. Mais à la distance considérable où ils se trouvaient, leur grosseur relative ne paraissait pas s'être modifiée. Le soleil et les étoiles apparaissaient exactement tels qu'on les voit de la Terre. Quant à la Lune, elle avait considérablement grossi, mais les lunettes des voyageurs, peu puissantes en somme, ne permettaient pas encore de faire d'utiles observations à sa surface et d'en reconnaître les dispositions topographiques ou géologiques. Aussi le temps s'écoulait-il en conversations interminables. On causait de la Lune, surtout. Chacun apportait son contingent de connaissances particulières. Barbicane et Nicole, toujours sérieux, Michel Ardan, toujours fantaisiste. Le projectile, ses situations, sa direction, les incidents qui pouvaient survenir, les précautions que nécessiterait sa chute sur la Lune, c'était là matière inépuisable à conjecture. Précisément, en déjeunant, une demande de Michel, relative au projectile, provoqua une assez curieuse réponse de Barbicane et digne d'être rapportée. Michel, supposant le boulet brusquement arrêté, lorsqu'il était encore animé de sa formidable vitesse initiale, voulut savoir quelles auraient été les conséquences de cet arrêt. « Mais, répondit Barbicane, je ne vois pas comment le projectile aurait pu être arrêté. Supposons-le, répondit Michel. Supposition irréalisable, répliqua le pratique Barbicane. À moins que la force d'impulsion ne lui eût fait défaut. Mais alors sa vitesse aurait décru peu à peu, et il ne se fût pas brusquement arrêté. Admet qu'il ait rencontré un corps dans l'espace. Lequel ? Ce bolide énorme que nous avons rencontré. Alors, dit Nicole, le projectile eût été brisé en 1000 pièces, et nous avec. Mieux que cela, répondit Barbicane. Nous aurions été brûlés vifs. Brûlés ? S'écria Michel. Pardieu ! Je regrette que le canne ne se soit pas présenté, pour voir. Et tu aurais vu, répondit Barbicane. On sait maintenant que la chaleur n'est qu'une modification du mouvement. Quand on fait chauffer de l'eau, c'est-à-dire quand on lui ajoute de la chaleur, cela veut dire que l'on donne du mouvement à ses molécules. Tiens, fit Michel, voilà une théorie ingénieuse. Et juste, mon digne ami, car elle explique tous les phénomènes du calorique. La chaleur n'est qu'un mouvement moléculaire, une simple oscillation des particules d'un corps. Lorsqu'on serre le frein d'un train, le train s'arrête. Mais que devient le mouvement dont il était animé ? Il se transforme en chaleur, et le frein s'échauffe. Pourquoi graisse-t-on l'essieu des roues ? Pour l'empêcher de s'échauffer, attendu que cette chaleur, ce serait du mouvement perdu par transformation. Comprends-tu ?
Si je comprends, répondit Michel admirablement.
Ainsi, par exemple, quand j'ai couru longtemps, que je suis en nage, que je sue à grosses gouttes, pourquoi suis-je forcé de m'arrêter ? Tout simplement parce que mon mouvement s'est transformé en chaleur. Barbicane ne put s'empêcher de sourire à cette repartie de Michel, puis reprenant sa théorie. Ainsi donc, dit-il, dans le cas d'un choc, il en eût été de notre projectile comme de la balle qui tombe brûlante après avoir frappé la plaque de métal. C'est son mouvement qui s'est changé en chaleur.
En conséquence, j'affirme que si notre boulet avait heurté le bolide, sa vitesse brusquement anéantie eût déterminé une chaleur capable de le volatiliser instantanément. Alors, demanda Nicholl, qu'arriverait-il donc si la Terre s'arrêtait subitement dans son mouvement de translation? La température serait portée à un tel point, répondit Barbicane, qu'elle serait immédiatement réduite en vapeur. Bon, fit Michel, voilà un moyen de finir le monde qui simplifierait bien les choses. Et si la Terre tombait sur le Soleil? Dit Nicholl. D'après les calculs, répondit Barbicane, cette chute développerait une chaleur égale à la chaleur produite par 1600 globes de charbon égaux en volume au globe terrestre. Bon, surcroît de température par le Soleil, répliqua Michel Ardan, et dont les habitants d'Uranus ou de Neptune ne se plaindraient sans doute pas, car ils doivent mourir de froid sur leur planète. Ainsi donc, mes amis, reprit Barbicane, tout mouvement brusquement arrêté produit de la chaleur. Et cette théorie a permis d'admettre que la chaleur du disque solaire est alimentée par une grêle de bolides qui tombe incessamment à sa surface. On a même calculé... Défions-nous, murmura Michel. Voilà les chiffres qui s'avancent. On a même calculé, reprit imperturbablement Barbicane, que le choc de chaque bolide sur le Soleil doit produire une chaleur égale à celle de 4000 masses de houille d'un volume égal. Et quelle est la chaleur solaire? Demanda Michel. Elle est égale à celle que produirait la combustion d'une couche de charbon qui entourerait le Soleil sur une épaisseur de 27 kilomètres. Et cette chaleur? Elle serait capable de faire bouillir par heure 2 900 000 000 de myriamètres cubes d'eau. Et elle ne vous retit pas? S'écria Michel. Non, répondit Barbicane, parce que l'atmosphère terrestre absorbe les 4/10 de la chaleur solaire. D'ailleurs, la quantité de chaleur interceptée par la Terre n'est qu'un 2 milliardième du rayonnement total. Je vois bien que tout est pour le mieux, répliqua Michel, et que cette atmosphère est une utile invention, car non seulement elle nous permet de respirer, mais encore elle nous empêche de cuire. Oui, dit Nicholl. Et malheureusement, il n'en sera pas de même dans la Lune. Bon, fit Michel, toujours confiant. S'il y a des habitants, ils respirent. S'il n'y en a plus, ils auront bien laissé assez d'oxygène pour 3 personnes, ne fût-ce que dans le fond des ravins, où sa pesanteur l'aura accumulée. Eh bien, nous ne grimperons pas sur les montagnes, voilà tout. Et Michel, se levant, alla considérer le disque lunaire, qui brillait d'un insoutenable éclat. « Sapristi, dit-il, qu'il doit faire chaud là-dessus. »« Sans compter, répondit Nicholl, que le jour y dure 360 heures. »« Par compensation, dit Barbicane, les nuits y ont la même durée, et comme la chaleur est restituée par rayonnement, leur température ne doit être que celle des espaces planétaires. »« Un joli pays, dit Michel. »« N'importe, je voudrais déjà y être. »« Hein, mes chers camarades ? Sera-ce assez curieux d'avoir la Terre pour lune, de la voir se lever à l'horizon, d'y reconnaître la configuration de ses continents, de se dire « là est l'Amérique, là est l'Europe », puis de la suivre lorsqu'elle va se perdre dans les rayons du soleil? À propos, Barbicane, y a-t-il des éclipses pour les sélénites? Oui, des éclipses de soleil, répondit Barbicane, lorsque les centres des 3 astres se trouvent sur la même ligne, la Terre étant au milieu. Mais ce sont seulement des éclipses annulaires, pendant lesquelles la Terre, projetée comme un écran sur le disque solaire, en laisse apercevoir la plus grande partie. « Et pourquoi, demanda Nicholl, n'y a-t-il point d'éclipse totale? Est-ce que le cône d'ombre projeté par la Terre ne s'étend pas au-delà de la Lune ?»« Mieux que cela, répondit Barbicane. Oui, si l'on ne tient pas compte de la réfraction produite par l'atmosphère terrestre. Non, si l'on tient compte de cette réfraction. Ainsi, soit delta prime la parallaxe horizontale et P prime le demi-diamètre apparent. Ouf, fit Michel, un demi de V0 carré, parle donc pour tout le monde, homme algébrique. Eh bien, en langue vulgaire, répondit Barbicane, la distance moyenne de la Lune à la Terre étant de 60 rayons terrestres, la longueur du cône d'ombre, par suite de la réfraction, se réduit à moins de 42 rayons. Il en résulte donc que lors des éclipses, la Lune se trouve au-delà du cône d'ombre pur, et que le Soleil lui envoie non seulement les rayons de ses bords, mais aussi les rayons de son centre. Alors, dit Michel d'un ton goguenard, pourquoi y a-t-il éclipse, puisqu'il ne doit pas y en avoir? Uniquement parce que ces rayons solaires sont affaiblis par cette réfraction, et que l'atmosphère qu'ils traversent en éteint le plus grand nombre.
Cette raison me satisfait, répondit Michel. D'ailleurs, nous verrons bien quand nous y serons.
Maintenant, dis-moi, Barbicane, crois-tu que la Lune soit une ancienne comète?
En voilà une idée.
Oui, répliqua Michel avec une aimable fatuité. J'ai quelques idées de ce genre.
Mais elle n'est pas de Michel, cette idée, répondit Nicole.
Bon, je ne suis donc qu'un plagiaire.
Sans doute, répondit Nicole.
D'après le témoignage des anciens, les Arcadiens prétendent que leurs ancêtres ont habité la Terre avant que la Lune fût devenue son satellite. Partant de ce fait, certains savants ont vu dans la Lune une comète, que son orbite amena un jour assez près de la Terre pour qu'elle fût retenue par l'attraction terrestre.
Et qu'y a-t-il de vrai dans cette hypothèse? Demanda Michel.
Rien, répondit Barbicane. Et la preuve, c'est que la Lune n'a pas conservé trace de cette enveloppe gazeuse qui accompagne toujours les comètes.
Mais, reprit Nicole, la Lune, avant de devenir le satellite de la Terre, n'aurait-elle pu, dans son périhélie, passer assez près du Soleil pour y laisser par évaporation toutes ses substances gazeuses?
Cela se peut, ami Nicole, mais cela n'est pas probable.
Pourquoi?
Parce que, ma foi, je n'en sais rien.
Ah, quelle centaine de volumes, s'écria Michel. On pourrait faire avec tout ce qu'on ne sait pas.
Ah, ça. Quelle heure est-il? Demanda Barbicane.
3 heures, répondit Nicole.
Comme le temps passe, dit Michel, dans la conversation de savants tels que nous. Décidément, je sens que je m'instruis trop. Je sens que je deviens un puits. Ce disant, Michel se hissa jusqu'à la voûte du projectile. « Pour mieux observer la Lune, » prétendait-il. Pendant ce temps, ses compagnons considéraient l'espace à travers la vitre inférieure. Rien de nouveau à signaler. Lorsque Michel Ardan fut redescendu, il s'approcha du hublot latéral. Et soudain, il laissa échapper une exclamation de surprise.
« Qu'est-ce donc ? » demanda Barbicane.
Le président s'approcha de la vitre et aperçut une sorte de sac aplati qui flottait extérieurement à quelques mètres du projectile. Ce corps semblait immobile, comme le boulet, et par conséquent il était animé du même mouvement ascensionnel que lui.
« Qu'est-ce que cette machine-là ? » répéta Michel Ardan.
« Est-ce un de ces corpuscules de l'espace que notre projectile retient dans son rayon d'attraction et qui va l'accompagner jusqu'à la Lune ?»
« Ce qui m'étonne, répondit Nicole, c'est que la pesanteur spécifique de ce corps, qui est très certainement inférieure à celle du boulet, lui permette de se maintenir aussi rigoureusement à son niveau. »
« Nicole, répondit Barbicane après un moment de réflexion, je ne sais pas quel est cet objet, mais je sais parfaitement pourquoi il se maintient par le travers du projectile.
Et pourquoi ?
Parce que nous flottons dans le vide, mon cher capitaine. Et que dans le vide, les corps tombent, ou se meuvent, ce qui est la même chose, avec une vitesse égale, quelle que soit leur pesanteur ou leur forme. C'est l'air qui, par sa résistance, crée des différences de poids. Quand vous faites pneumatiquement le vide dans un tube, les objets que vous y projetez, grains de poussière ou grains de plomb, y tombent avec la même rapidité. Ici, dans l'espace, même cause et même effet.
Très juste, dit Nicole.
Et tout ce que nous lancerons au dehors du projectile ne cessera de l'accompagner dans son voyage jusqu'à la Lune.
Ah ! Bêtes que nous sommes ! S'écria Michel.
Pourquoi cette qualification ? Demanda Barbicane.
Parce que nous aurions dû remplir le projectile d'objets utiles, livres, instruments, outils. Nous aurions tout jeté, et tout nous aurait suivi à la traîne. Mais j'y pense.
Pourquoi ne nous promenons-nous pas au dehors, comme ce bolide? Pourquoi ne nous lançons-nous pas dans l'espace par le hublot? Quelle jouissance ce serait de se sentir ainsi suspendu dans l'éther, plus favorisé que l'oiseau qui doit toujours battre de l'aile pour se soutenir.
D'accord, dit Barbicane, mais comment respirer?
Maudit air, qui manque si mal à propos.
Mais s'il ne manquait pas, Michel, ta densité étant inférieure à celle du projectile, tu resterais bien vite en arrière.
Ah, alors c'est un cercle vicieux.
Tout ce qu'il y a de plus vicieux.
Et il faut rester emprisonné dans son wagon.
Il le faut.
Ah ! S'écria Michel d'une voix formidable.
Qu'as-tu ? Demanda Nicole.
Je sais, je devine ce qu'est ce prétendu bolide. Ce n'est point un astéroïde qui nous accompagne. Ce n'est point un morceau de planète.
Qu'est-ce donc ? Demanda Barbicane.
C'est notre infortuné chien. C'est le mari de Diane.
En effet, cet objet déformé, méconnaissable, réduit à rien, c'était le cadavre de Satellite, aplati, comme une cornemuse dégonflée, et qui montait, montait toujours.